Donc, nous sommes dans cette thématique vraiment intéressante et aussi pratique, hein, qui est celle de parcourir le livre des Proverbes. Et ce matin, donc, je me suis un peu habillé moitié, je dirais, un peu en lien avec la thématique qui est le chemin de nos paroles. Alors, j'ai mis pantalon de marche et puis mes souliers de marche, mais j'ai gardé ma chemise de bûcheron. Alors, je ne sais pas comment une espèce de marcheur hybride qui, en marchant, en faisant de la randonnée, va peut-être aussi bûcher en même temps. Et j'ai bûché en tout cas un peu cette semaine aussi en préparant ce message, mais j'espère qu'on va avoir quelque chose qui va nous toucher chacun d'entre nous. C'est ma prière. Vous savez que chaque personne qui vient ici en avant apporter la parole de Dieu, je pense, le fait jusqu'à un certain point avec crainte et tremblement, au sens qu'on veut vraiment que la parole de Dieu puisse atteindre chacun de vos cœurs, chacun de nos cœurs, premièrement, en commençant par nous, et que l'Esprit de Dieu, et dans ce sens-là, on va prier, on va demander au Seigneur qu'il, en fait, touche, puisse prendre la simplicité, ou ce qui est simple, puisse devenir quelque chose de vivant pour chacun d'entre vous, et ça dépend de Dieu. Si nous faisons cette prière, chacun d'entre nous, je suis convaincu que Dieu a une parole pour vous. Et cela ne dépendra pas nécessairement de moi entièrement. Seigneur notre Dieu, on s'approche devant toi et on se réjouit, car tu es le Dieu de la vérité. Tu es celui qui, lorsqu'il prononce une parole, les choses changent et tu agis. Comme on l'a entendu ce matin, lorsque tu as dit que la tempête cesse, tu as ordonné, Seigneur Dieu, au vent et tu as menacé le vent d'arrêter dans ce jour de tempête. Et Seigneur Dieu, tu as apaisé, Seigneur Dieu, la mer. Seigneur Dieu, pour tous ceux qui sont en tumulte aujourd'hui, pour tous ceux qui sont inquiets ou pour tous ceux qui vivent quoi que ce soit, Seigneur Dieu, que tu puisses apporter ce calme sur leurs eaux, sur la mer sur laquelle ils se trouvent maintenant. Et pour ceux, Seigneur Dieu, qui sont sur une eau calme, Seigneur Dieu, que tu puisses souffler un souffle nouveau afin qu'on puisse aller encore, aller plus loin, aller, Seigneur Dieu, là où tu le désires. Nous sommes à ta disposition. Touche nos cœurs, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Donc, le chemin de nos paroles, c'est cette analogie que je veux prendre, celle qui est du chemin, celle du sentier, le chemin sur lequel on marche. Et nos paroles, en fait, suivent un chemin. Nos paroles suivent un chemin, soit le chemin de la vérité, disons-le, carrément. Nos paroles peuvent être vraies. Lorsque nous parlons, ça correspond à la vérité, à ce qui est vrai, à ce qui est authentique. Parfois, nos paroles suivent le chemin de l'ignorance, c'est-à-dire qu'on dit quelque chose, mais en fait, on ne sait pas trop de quoi on parle. Des fois, ça nous arrive, hein? On s'avance, on est sur un chemin de l'ignorance. Parfois, on est sur le chemin carrément de l'erreur aussi. L'erreur, c'est réparable. Ça vous est déjà arrivé de dire des choses qui étaient erronées, hein? Des choses fausses. Ah ben là, déjà, si vous dites, si vous dites pas de oui, c'est parce qu'à quelque part, là, il y a juste le menteur qui ment pas quand il dit qu'il ment, hein? Vous savez ça? OK, ça, le matin, c'est juste pour vous réveiller un peu. Vous êtes bien réveillé? Et puis, il y a aussi, bien sûr, le mensonge, qui est quelque chose, à ce moment-là, de plus délibéré, de caché, qui est en nous. Et souvent, on ment parce qu'on est mal pris, parce qu'on use de mauvais stratagèmes, ça peut être de façon évidemment délibérée. Mais le chemin de nos paroles doit suivre le chemin de la vérité. Autrement dit, de dire les choses qui sont de plus en plus vraies. Et ça, c'est un apprentissage, croyez-le ou pas. L'apôtre Paul dit aux chrétiens dans Éphésiens chapitre 4, verset 15, verset 25, qui dit que chacun d'entre vous dise la vérité à l'autre. C'est pas facile de dire la vérité à quelqu'un. Et c'est pas toujours facile non plus d'être vrai et authentique, n'est-ce pas? On a des combats et on a des luttes. Mais, justement, le livre des Proverbes nous apprend à comment parler. L'importance de nos paroles. L'apôtre Pierre dit ceci dans son épître. Il dit, « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Est-ce qu'on peut avoir une vie heureuse? Oui. Et je pense que ceux qui veulent avoir une vie heureuse se rendent compte par expérience que si nous disons la vérité ici, des fois on met une garde à notre bouche, si on ne dit pas des fois ce qu'ils nous tentent de dire, mais qu'on se retient, on se rend compte que finalement on évite beaucoup de problèmes et de difficultés. Et même le côté positif, lorsqu'on dit des choses positives et vraies envers quelqu'un et envers face à la réalité, lorsqu'on est vrai devant la réalité, à ce moment-là aussi, on s'en rend compte qu'on est en train, on est bien, on vit quelque chose qui nous rend heureux. On va parler de la sagesse, donc. Pour pouvoir bien parler, il faut acquérir la sagesse. C'est ce que nous lisons, par exemple, dans Proverbes chapitre 4. Voici le commencement de la sagesse. Et ça, c'est intéressant. Le commencement de la sagesse, autrement dit, c'est d'acquérir la sagesse. Pour être sage, c'est qu'il faut déjà l'acquérir, la sagesse. C'est déjà être sage. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. On pourrait se demander, mais qu'est-ce que la sagesse? Dans l'Ancien Testament, c'est le mot rokma. Hein. J'ai entendu il y a quelque temps le mot chokma comme étant sagesse. Non, en hébreu, c'est le mot rokma. C'est une petite parenthèse que je fais. Qu'est-ce que la sagesse? C'est une question difficile parce que la sagesse est à la fois un contenu qu'on retrouve dans la Bible, donc le livre de la sagesse, le livre des sagesses, le livre des proverbes contient la sagesse. C'est aussi une personne, bien sûr, Jésus qui incarne la sagesse. Mais c'est aussi une faculté pour pouvoir discerner le meilleur moyen ou les meilleurs moyens pour arriver à accomplir nos intentions. Vous suivez? C'est vraiment d'avoir cette perspicacité, ce discernement, cette vision des choses et d'une situation pour pouvoir choisir la meilleure voie pour atteindre nos objectifs. Je pense que c'est une définition assez claire. Donc, on se rend compte que la sagesse, c'est pas une question nécessairement d'être très instruit. La sagesse, c'est pas quelqu'un qui parle pas, qui dit rien, qui est sage, sage comme une image. C'est pas nécessairement ça, parce que hein, on sait qu'on peut être sage comme une image et avoir, c'est pas nécessairement sage dans la pratique. Mais sage et être un homme et une femme sage, c'est quelqu'un qui va choisir les bons moyens pour atteindre et réussir à atteindre ses objectifs. Et dans ce sens-là, c'est un côté très pratique. Donc, un ouvrier, un menuisier peut être sage, dans ce sens qu'il va utiliser les bons outils, les bons moyens, la bonne manière de faire les choses pour atteindre son objectif. Donc, le côté pratique de la sagesse, on le voit dans la Bible aussi, il est très présent. C'est aussi, pour ce qui est de notre vie morale. C'est-à-dire que si on veut réussir dans la vie, bien, il faut choisir les bons moyens. Et on se rend compte qu'on n'est pas toujours sage, n'est-ce pas, pour atteindre des objectifs d'une vie qui soit heureuse ou pour atteindre une vie qui puisse être selon Dieu ou avoir le bonheur. On ne choisit pas toujours les bons moyens. Donc, on doit acquérir la sagesse. La sagesse, dans ce sens-là, c'est un processus. On ne devient pas sage du jour au lendemain et on ne deviendra jamais assez sage pour dire que nous sommes sages. Donc, dans ce sens-là, c'est un processus. C'est quelque chose qu'on doit acquérir. Donc, c'est pas l'idée d'être très instruit, nécessairement, d'avoir une grande érudition ou de connaître toutes choses, mais je dirais que la sagesse, on le voit dans la Bible, surtout dans les proverbes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les proverbes et dans la Bible, on parle pas beaucoup de la loi de Dieu, quand même, parce que c'est justement le livre des proverbes est là pour dire ce que la loi ne dit pas. Je sais pas si vous avez déjà vécu ce moment-là où vous connaissez peut-être bien la parole de Dieu ou la Bible. Et que vous devez prendre une décision par rapport à votre emploi, par rapport au mariage, par rapport à vos fréquentations. Et vous vous dites, mais c'est où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Quel travail que je dois faire? Quelle décision que je dois prendre? Et puis, ça n'est pas écrit. C'est pas écrit si tu dois devenir secrétaire ou chauffeur de camion ou si tu dois devenir médecin. C'est pas écrit. Et à ce moment-là, de quoi avons-nous besoin? De la sagesse. La sagesse. C'est-à-dire de réfléchir devant Dieu, en sa présence et en parlant avec d'autres personnes qui sont matures pour pouvoir discerner les meilleurs moyens et le meilleur moyen pour atteindre notre objectif. Et c'est là que, dans le fond, on se rend compte qu'on développe au fur et à mesure la sagesse. Et donc, dans le livre des Proverbes, c'est ce que l'on voit. On voit des hommes qui ont écrit et qui ont observé des choses de ce monde, et ils se sont dit, ça marche. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça, ça marche, ça, ça marche pas. Et on se rencontre donc que Dieu a créé un ordre, Dieu a mis des principes dans la vie qui ne sont pas nécessairement écrites comme étant un code, hein, faites ceci, faites cela, parce que la vie est tellement variée et se présente devant nous tellement de choix qu'on doit plutôt voir l'ensemble. Hein. Et c'est pour ça que les proverbes, c'est ce qu'ils disent. Si tu fais telle chose, tu vas atteindre tel objectif. Si tu fais telle autre chose, tu vas vraiment manquer ton coup. Et donc, c'est cette expérience-là. Donc, pour la parole, pour les paroles, pour notre usage de la parole, les proverbes nous renseignent. La réponse est évidente. Qu'est-ce que vous aimez mieux entendre? Une parole qui vous encourage ou une parole qui vous critique? Une parole qui nous encourage. Bien sûr, si la critique est bien fondée, il faut l'apprendre. Mais quand même, c'est plutôt agréable de se faire dire qu'on est fin, qu'on est beau, hein? Même si c'est pas vrai. Mais quand même, c'est toujours plus agréable de se faire dire la vérité, sans tomber dans la flatterie. Nous avons été créés pour recevoir des paroles qui sont justes, vraies et encourageantes. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de vie. C'est pas un Dieu de mort, c'est un Dieu de vie. Et ce qu'il veut dans chacune de notre vie, c'est que sa vie puisse paraître et transparaître. Et cela se fait au moyen aussi de paroles que nous prononçons et des paroles que nous entendons. Donc, il y a une manière de parler qui est bien. Donc, il faut désirer cependant acquérir la sagesse. Et ça, la sagesse ne vient pas tout seul. C'est pas parce que nous lisons la Bible, c'est pas parce qu'on entend des prédications que nécessairement on devient plus sage. Il y a quelque chose de personnel dans la sagesse. Il y a quelque chose de vivant dans la sagesse. C'est ce quelque chose de personnel. Ça veut dire qu'on doit rentrer en relation avec Dieu pour pouvoir devenir sage. On ne peut pas devenir sage, on ne peut pas apprendre la sagesse en dehors ou coupé de la relation avec Dieu. Parce que Dieu crée toutes choses, parce que c'est avec Dieu, c'est de lui que viennent toutes choses, c'est lui qui gouverne toutes choses, et donc si on n'a pas cette relation avec lui, eh bien à ce moment-là, on n'a pas la pleine connaissance. Vous savez, il nous manque quelque chose. Nous n'avons pas cette pleine connaissance-là. Donc, la sagesse, c'est aussi vivre la parole de Dieu, mais en communion avec Dieu, avec lui, en ayant une relation personnelle avec lui. C'est comme ça que l'on devient sage. C'est pas en apprenant nécessairement toute la Bible par cœur. Il faut l'apprendre. Apprenez-la. Apprenons-la. Mais c'est pas simplement savoir ça dans notre tête. C'est d'établir un lien entre ce que nous connaissons et le Dieu qui a révélé ces choses. C'est ça, la sagesse. La sagesse, elle est là. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne la sagesse. Donc, il faut désirer. Ce matin, si vous ne désirez pas la sagesse, vous ne deviendrez jamais sage. Il faut désirer être sage. C'est pour ça que c'est marqué dans les premiers chapitres des Proverbes. Vends tout et achète et acquiert la sagesse. Parce que ça vaut plus que toute autre chose. Et ça, là, je me dis, entre vous et moi, pas sûr que ça rentre aussi vite dans notre tête, dans notre programmation. Hein? C'est vrai. Non, mais vous admettez que vous... Je vous dis, moi, est-ce que je serais prêt à tout vendre pour acquérir la sagesse? Non, mais sérieux, là. Mais c'est ce qu'il dit ici. Donc, c'est pour montrer, bien sûr, c'est une image. C'est une image, mais c'est pour montrer combien... On doit désirer, être motivé à devenir sage. Si on n'est pas motivé, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. S'il n'y a pas de relation personnelle avec Dieu, ça ne marche pas. Parce que c'est Dieu qui est à l'origine de toute chose. Et pourtant, la sagesse, elle est facile à trouver. Celui qui cherche va trouver. Parce que c'est marqué dans Proverbes chapitre 8 que la sagesse crie dans les rues. Elle crie. Et Jésus, quand il a proclamé la parole, hein, la parole de Dieu, il est allé dans les rues, il a proclamé le royaume de Dieu. La sagesse, elle est facile à trouver. C'est pas ça qui est le problème. Dieu n'est pas difficile à trouver. C'est avons-nous l'intention de le chercher, de le trouver? Avons-nous l'intention de chercher la sagesse? Et c'est là qu'est la question. Donc, la sagesse, ça concernant nos paroles, je dirais qu'il y a deux aspects. Le premier aspect, qu'on voit dans Proverbes chapitre 12, verset 18, le premier aspect, c'est de notre manière de parler. Notre manière de parler. notre façon de parler, le ton que l'on emploie. Hein? Je peux dire quelqu'un, par exemple, je peux encourager quelqu'un, « Ouais, c'est un beau bulletin, 98%. » Mais bon, c'est sûr que, bon, avec ce ton-là, m'a dit, votre enfant ne sera pas très, très encouragé. Ça, c'est sûr, même s'il a fait 98%. Mais si tu dis, waouh, tu as eu 72%, et peut-être que la prochaine fois, tu auras un petit peu plus, puis tu l'encourages, le ton change tout. Donc, il y a une manière de parler. Ma mère disait souvent, bien parler, c'est se respecter, n'est-ce pas? Bien parler, c'est se respecter. C'est se respecter soi-même, et c'est respecter aussi, c'est évidemment pour l'autre. Donc, il y a une manière de bien parler. Et l'autre chose, c'est, donc nous lisons Proverbe 12, 18, « Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. » On n'a pas beaucoup d'accès aux épées ces temps-ci. Je ne sais pas si vous avez des épées chez vous. Je ne pense pas, vous n'avez pas d'épée, hein? Vous n'avez pas d'épée chez vous. Est-ce que vous avez déjà tenu une épée dans votre main? C'est impressionnant. Ouf! Et là, quand vous imaginez, chez nous, on a une baïonnette, OK? On a acheté une vieille maison, puis dans la maison, en fouillant dans les tiroirs de l'atelier, on a trouvé une baïonnette. C'est long comme ça. C'est marqué 1914, je pense, il y a la date d'imprimé, donc Première Guerre mondiale. Et on la cache quand nos petits-enfants viennent à la maison, évidemment. Mais tu sors ça, là, ça fait chling! OK, tu sors ça comme ça, là, ça coupe, c'est long comme ça, tu dis, ça a déjà servi, ça, à transpercer un corps. Et donc, on se rend compte qu'il y a des paroles, quand on parle à la légère, ça peut blesser quelqu'un, comme une épée, comme une épée. Parler à la légère, c'est quoi? Parler à la légère, c'est dire des choses sur quelqu'un ou sur une situation dont on n'a pas réfléchi les conséquences. Par exemple, dire quelque chose sur quelqu'un dont on n'a pas réfléchi les conséquences. On n'a pas réfléchi la conséquence que cette parole-là aurait sur cette personne. Même si c'est vrai. Même si c'est vrai. On n'a pas calculé l'effet que ça ferait sur cette personne-là. Ou l'autre chose, c'est de parler vraiment par ignorance. C'est aussi ça, parler à la légère. C'est-à-dire dire n'importe quoi sur quelqu'un sans être sûr, sans démontrer que ce qu'on dit là est vrai et authentique. Et parler à la légère, autrement dit, il y a des gens, des fois, qui disent des choses sur nous qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas tout à fait vraies. Et combien ça nous blesse? Surtout les gens qui sont proches de nous. Les inconnus, ça ne dérange pas, mais les gens qui sont près de nous. Et donc, quand on parle à quelqu'un, il y a une manière de parler. Il y a une manière de s'adresser aux gens. Et la Bible encourage beaucoup de parler avec, je dirais, droiture, justice dans la vérité, mais avec douceur. Toujours avec douceur. On peut élever la voix avec douceur, je pense. Tandis que la langue des sages apporte la guérison. N'est-ce pas extraordinaire? Elle apporte la guérison. Un autre proverbe, chapitre 21, verset 23. « Celui qui veille sur sa bouche et sa langue se préserve de bien des angoisses. Hein? » Et ça, c'est vrai. Combien de fois on se mord les lèvres? Hein? On dit « tourner la langue cette fois » et se mord aussi cette fois. Se mord les lèvres cette fois. Parce qu'elle dit « j'aurais donc pas dû dire ça ». Qu'est-ce que je viens de dire là? Et je peux vous dire, comme prédicateur, j'en ai dit plusieurs fois, qu'après la prédication, on s'est dit, qu'est-ce que je viens de dire là? J'espère que ce ne sera pas le cas ce matin. Mais il y a aussi de dire, pas simplement la manière de dire les choses, mais dire aussi les choses, les bonnes choses. Donc, dire les choses, la vérité. Non seulement la manière de dire les choses, ça c'est bien parlé, mais aussi dire la vérité. Dire les choses vraies. Et ça, je dirais que c'est payant de faire ça à long terme. Dire les choses vraies. Dire ce qui est vrai. Sur les autres, sur soi. Vérifiez vos sources. Dire les choses qui sont vraies. Juste une petite parenthèse par rapport à un prédicateur que mon épouse, elle a entendu à un moment donné une prédication. Je ne sais pas si vous connaissez le philosophe Blaise Pascal. Peut-être ça vous dit rien. Peut-être ça vous dit quelque chose. Qui a dit, bon, le cœur a les raisons que les raisons n'en connaît pas, entre autres, bon, plein de choses. Il est né au 17e siècle, OK? Et puis, le prédicateur cite Blaise Pascal, mais sauf qu'au lieu de dire Blaise Pascal, ou juste dire Pascal, il dit Pascal Blaise, OK? Fait que ça montre qu'à ce moment-là, il n'avait pas vérifié ses sources. Donc, il faut dire la vérité, il faut dire les choses qui sont vraies. Des paroles réconfortantes sont comme un arbre de vie. mais la langue malfaisante démoralise. Des paroles réconfortantes. Réconfortantes. On n'a pas besoin de faire l'économie de ça, des paroles réconfortantes. Ça, on peut les dépenser en masse. Dire des paroles réconfortantes, qui apportent un réconfort, qui font du bien. Des paroles réconfortantes sont comme un arbre de vie. C'est comme si vous voyez devant vous un arbre de vie. Un arbre de vie, c'est un arbre qui porte des fruits. Un arbre que vous allez aller pouvoir chercher les fruits et vous en nourrir, vous rassasier. Des paroles réconfortantes, ça nourrit l'âme, ça nourrit l'esprit. Mais à l'inverse, mais la langue malfaisante démoralise. La langue méchante.
La langue méchante. Il est bien méchant. Oui, il est bien méchant, lui.
C'est des choses malfaisantes. Ça, ça décourage. Ah, ça nous met le toquet à terre. Hein? Ça nous... On était parti de bonne humeur, puis on est sorti. Eh boy! Triste et malheureux. Donc, il y a des manières de faire, et il y a des manières de parler, puis il y a des dire les bonnes choses. Choisir nos mots. Faire attention. Bien parler. Mais quelle est, je dirais, la source? On continue. Dire les bonnes choses. Celui qui dit la vérité proclame la justice et le faux témoin la tromperie. Et ça, c'est important, donc, ici, c'est un contexte dans une cour, dans la cour, mais l'idée, je pense que ça s'applique dans toutes les circonstances. Hein. Celui qui dit la vérité proclame la justice. Il dit ce qui est juste. Il dit ce qui est vrai. Et le faux témoin la tromperie. On pourrait poser la grande question, mais qu'est-ce que la vérité, hein? Et il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ça serait peut-être un peu trop lourd ce matin. Mais c'est quoi la vérité? La vérité, la formule classique, c'est les paroles qui correspondent aux faits. Si, par exemple, je regarde le mur, là, puis je dis, oh, donc ben un beau mur rouge, OK? Donc, c'est sûr que mes paroles ne correspondent pas à la réalité. Vous êtes d'accord avec moi, à moins que vous soyez vous aussi pas trop réveillés ce matin? Non! Hein? Le mur est gris, on est d'accord. En tout cas, on peut s'assiner sur les tons de gris, mais on n'ira pas là. OK? Mais c'est lorsque nos paroles correspondent aux faits. Donc, c'est aussi simple que ça, la vérité, dans un sens. Et la vérité, ça va aussi dire que on le voit dans les promesses. Une personne qui dit la vérité ou une personne qui est vraie, c'est quelqu'un qui peut dire, « Demain matin, je vais être là à 9h. » OK? « Demain matin, je vais être là à 9h. » Et la vérité va se vérifier si la personne est là à 9h. Mais c'est sûr que si vous êtes une personne vraie, à 9h-5, vous n'allez pas aller faire votre épicerie. OK? À 9h-5, vous allez déjà être pas mal proche de là où vous devez avoir votre rendez-vous. On est d'accord? Donc, à ce moment-là, c'est la vérité ou ce qui est vrai. On conforme nos actes à ce que nous avons dit. Okay? Donc, ça marche dans les deux sens. On peut dire ce qui est la réalité, mais aussi on peut agir selon la vérité que l'on a dit. Okay? Donc, c'est ça la promesse. Aujourd'hui, on remet beaucoup en question l'idée de la vérité, bien sûr. Parce que on dit, ben, chez chacun sa vérité, chacun pense comme il veut, chacun a le droit de dire ce qu'il veut. Et c'est sûr que, comme on disait tout à l'heure, c'est que si nous croyons que Dieu est créateur, si nous croyons que Dieu existe, c'est que forcément, on doit dire comme lui dit. Parce que lui, il est vrai. Donc, on peut avoir plusieurs façons de voir les choses, mais tôt ou tard, on doit en venir à dire la même chose. C'est-à-dire, dans la mesure où on accepte la vérité que Dieu dit. N'est-ce pas? On s'en va vers là. On s'en va vers ça. Je n'irai pas plus loin ce matin parce que ce n'est pas nécessaire, mais il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, bien sûr, sur la vérité. Mais dire les choses vraies. Être vrai. Dire des choses qui correspondent à la réalité. Et combien c'est facile des fois de dire « ça va bien ». Moi, il y a quelqu'un, à un moment donné, il dit « je ne pose plus jamais cette question-là à ma femme ». Ok, comme pasteur, j'étais pasteur pendant plusieurs années dans une église, et je serrais la main aux gens quand ils rentraient à l'église. Et puis là, je serrais la main. Puis là, je disais, on dit souvent « comment ça va, hein? Comment ça va bien? » Bon. Fait que là, puis là, j'avais à sa femme, puis là, à un moment donné, il m'avait dit, tu ne poses plus jamais cette question-là, parce que ça va mal. Ça va mal dans notre cours, fait que tu ne poses pas cette question-là. Fait que là, je disais, bonjour madame, bon matin, puis je m'arrêtais là, parce que, donc, c'est sûr qu'il faut être vrai. Il faut dire les choses qui sont vraies. Mais c'est pas facile de dire la vérité. Mais c'est pourtant ça qui nous affranchit, qui nous libère. La vérité sur l'autre, avec amour. Dans Éphésiens chapitre 4, hein, n'est-ce pas, verset 15, qui dit, « Dites la vérité dans l'amour. Hein? » Il y a non seulement de dire la vérité à chacun, mais de dire la vérité dans l'amour. Cela est possible. D'où vient donc le point de départ de ce chemin-là? On a dit que le chemin qu'on doit prendre, donc c'est le chemin de la vérité. On doit marcher dans la vérité, être de plus en plus vrai. Vrai envers soi-même, vrai envers les autres, vrai envers Dieu. De plus en plus, c'est ça le chemin, et c'est de cette manière-là qu'on doit prononcer nos paroles. De plus en plus parler selon la vérité. De plus en plus parler vrai. Vrai. Quelque chose, hein? Mais c'est payant. Pourquoi? Parce que si on fait ça, les gens vont vous faire confiance de plus en plus. Si vous êtes vrai, quel que soit le prix, les gens vont vous faire confiance quand même. Les gens font confiance à des gens qui parlent, qui sont vrais, qui parlent vrai, qui disent la vérité. Même des fois, si on a un prix à payer élevé, mais un jour, dans le dernier jour, toute chose sera mise à jour et on verra bien qui a dit vrai. Et nous, si tu sais ce qui est vrai, dis-le. On peut se tromper, on fait des erreurs, mais de tendre vers la vérité. Et ça, ça commence par le cœur. Le cœur. C'est-à-dire que mon point de départ pour marcher sur le chemin, si on veut que nos paroles suivent le bon chemin, nos paroles doivent suivre le chemin de la vérité, de dire ce qui est vrai, d'écouter ce qui est vrai. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une transformation du cœur. Comme notre point de départ, c'est le cœur. On ne peut pas marcher sur le chemin de la vérité si notre cœur n'est pas connecté avec la sagesse de Dieu. Il dit dans Proverbes 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Et on sait que le cœur dans l'Ancien Testament, le cœur dans la Bible, ce n'est pas juste les émotions. Il n'existe pas d'équivalent en français. Mais le cœur dans la Bible, le cœur selon la pensée hébraïque, c'est à la fois la volonté, c'est le centre. C'est comme un cœur de pomme, OK? Les anciens voyaient pas la psychologie comme nous on la voit, mais ils voyaient la psychologie ou disaient la psychologie des gens, la décrivaient à partir des organes que l'on voit, c'est-à-dire à partir des yeux. Les yeux, c'est le discernement. Les oreilles, c'est l'obéissance. Et le cœur, c'est justement le centre de la volonté. C'est quelque chose qu'on voit pas. C'est quelque chose qui est intime, qui est caché, qui est derrière la cage thoracique. C'est là que est notre pensée. C'est là qu'est le moi profond, le moi que nous seuls et Dieu connaît et que l'on peut faire connaître aux autres, c'est dans le cœur, donc c'est dans le centre. Mais c'est pas juste les émotions. Donc il dit, garde ton cœur par-dessus toute autre chose parce que c'est de là que sorte, jaillisse la vie. N'est-ce pas, Jésus a dit, ce qui souille l'homme dans Matthieu 15, ce qui souille l'homme, c'est pas ce qui rentre dans la bouche, c'est pas la nourriture que l'on mange, hein, des lois de pureté, ça je dois pas manger ça comme les pharisiens étaient très scrupuleux de pas toucher à tel aliment, c'est pas ce qui rentre dans notre bouche, ce qui souille la bouche, c'est quand ça sort, c'est pas quand ça rentre, c'est quand ça sort, et ce qui sort de notre bouche vient du cœur, et Jésus, c'est ce qu'il a dit, c'est le cœur qui est important. Donc, mes paroles viennent de mon cœur. Des fois, je n'ai pas le contrôle de mon cœur, des fois, je ne le connais pas, tout ça, mais ça vient de mon cœur. Il faut que mon cœur soit, je le garde dans la vérité, dans la pureté. C'est le point de départ. Notre cœur, si le cœur d'un homme est pénétré de sagesse, nous dit Proverbe 16, il parlera de façon avisée, et ses paroles seront d'autant plus persuasives. C'est vrai? Si le cœur d'un homme est pénétré de sagesse, on a dit c'était quoi la sagesse? La sagesse, c'est cette capacité de discernement, capacité de voir les choses et de choisir les bons moyens pour arriver à notre intention. C'est lié intimement à la vérité et la sagesse. Donc, si le cœur d'un homme est pénétré de sagesse, il parlera de façon avisée, c'est-à-dire il parlera de façon éclairée, en connaissance de cause, hein, c'est ça que ça veut dire, et ses paroles seront d'autant plus persuasives parce qu'il sera Donc, il dira les choses qui sont vraies. Parce qu'on désire ce qui est vrai. Mais pour ça, comme je disais tantôt, il faut se rapprocher de Dieu. Il faut que Dieu soit présent. Il faut désirer Dieu. Il faut entrer en relation personnelle avec lui. Le théologien Bonhoeffer, je ne sais pas si vous connaissez Bonhoeffer, il est mort à la Deuxième Guerre mondiale, il est mort en prison, il était évidemment un Allemand. Et puis, durant le règne nazi, il a été mis en prison. Il est allé aux États-Unis pendant un certain temps. Finalement, il a voulu revenir. Il a voulu revenir en Allemagne. Il est revenu en Allemagne. Et un homme extraordinaire qui est mort quand même jeune, en prison. On l'a quelques semaines avant qu'on déclare la fin de la guerre, le 9 avril. Et puis, ils l'ont assassiné, ils l'ont tué. Donc, un homme de foi. Et voici ce qui est dit par rapport justement à dire la réalité de ce qui nous entoure, de dire les choses vraies. Voici ce qu'il dit dans son éthique. Pour pouvoir exprimer une réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire pour parler avec véracité, il faut conformer nos regards et nos pensées à ce qu'est la réalité en Dieu. Par Dieu et pour Dieu. C'est beau, hein? En tout cas, moi, je trouve ça beau, là. Je continue pareil. Le mensonge est d'abord la négation de Dieu tel qu'il s'est révélé au monde. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? 1 Jean, chapitre 2. Le mensonge, c'est l'opposition à la parole de Dieu telle qu'il l'a prononcée en Christ et sur laquelle repose la création. Le mensonge est donc la négation, la destruction consciente et intentionnelle de la réalité telle qu'elle a été créée par Dieu et qu'elle subsiste en lui. N'est-ce pas? Donc, on ne peut pas connaître la vérité, on ne peut pas connaître les choses vraies, on ne peut pas connaître les choses d'une façon authentique et vraie sans que l'on connaisse Dieu et sans qu'on leur reconnaisse que c'est Dieu d'où ça vient. On ne peut pas. Il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose. On ne sait pas tout, mais ce que l'on sait, on peut le savoir véritablement. Donc, tout maintenant, faut réaliser que celui qui a créé toutes choses, celui qui crée les événements, celui qui dispose de toutes choses, c'est un Dieu personnel. C'est un Dieu personnel. Et je ne peux pas connaître les choses véritablement sans connaître Dieu de manière personnelle et de continuer à avoir avec lui une relation personnelle. Je ne peux pas connaître véritablement les choses. Je ne peux pas connaître véritablement ce qui se passe dans mon cœur. Notre point de départ, c'est notre cœur. Nous disons aussi, en effet, dans le Proverbe 2:6, « En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse, c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Et si je veux que mon cœur soit bien aligné, si je veux que mon cœur dise de plus en plus la vérité, si je veux que mon cœur devienne sage, je dois me tourner vers Dieu, je dois me tourner vers le Seigneur pour pouvoir recevoir de lui la sagesse et le mot final sur moi. » Dans la prière de guérison, parce que vous savez, j'en viens au discours de faut se parler de la destination, c'est de se parler à soi-même. Mais déjà, j'ouvre une petite parenthèse en disant que dans la prière de guérison, vous savez, des mensonges nous ont été dits quand on est tout jeune déjà. Il y a des vérités aussi qui nous ont été dites, fort heureusement. Mais il y a des mensonges qui nous ont été dits. « T'es bon à rien, tu peux pas faire, tu réussiras pas. Toi, t'es pas bien bon là-dedans. Ah, oh, toi, t'es ci, toi, t'es ça. » Mais des fois, c'est de façon consciente ou inconsciente. Moi, comme parent, j'ai signifié des choses, sans même des fois le dire, j'ai signifié des choses à mes enfants, parfois positives, je l'espère, mais aussi certainement parfois négatives. Et ce sont ces paroles-là que l'enfant, que nous enregistrons, n'est-ce pas? Des paroles qui sont dans notre cœur, que nous enregistrons. Et ces paroles-là ne sont pas nécessairement vraies. Il y a des paroles qui sont fausses qui ont été dites sur nous. Et il y a encore des chrétiens, encore des enfants de Dieu qui croient des paroles fausses sur qui ils sont. Et ces paroles fausses-là, nous orientent, dictent nos actions et nos pensées, bien sûr, et nos réactions. Et nous avons besoin à ce moment-là de cette relation personnelle avec Dieu qui va nous dire le mot juste sur nous. Quand tu étais à 7 ans, quand tu avais 7 ans et que ton père ou ta mère t'ont abandonné dans telle circonstance, tu attendais l'autobus puis ils t'ont laissé tout seul, tu as vécu un sentiment de rejet, tu as vécu un sentiment d'abandon, tu disais que tu étais seul, là tu as cru que tes parents te laisseraient puis que tu valais rien parce que tes parents t'ont laissé tel quel. Mais sache que moi, à ce moment-là, moi, Jésus, j'étais présent là. Et moi, je te voyais. Je n'étais pas d'accord avec la réaction et l'action de tes parents à ce moment-là. Je n'étais pas d'accord avec eux. Mais moi, j'étais là. Et là, je te dis, voici, moi, je te voyais. Et déjà, je prenais soin de toi. Vous savez, cette parole-là de sagesse, cette parole de vérité-là, elle ne vient de Dieu seulement. C'est dans une relation personnelle avec Dieu seulement que nous pouvons la recevoir. La vérité et les paroles vraies sont liées toujours avec une relation personnelle avec Dieu. OK? Et ça, on peut dire ça pour toute chose, même pour la science, mais peu importe. Le point de départ de notre cœur. Qui a le cœur sage sera reconnu comme intelligent et les paroles aimables sont d'autant plus persuasives, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a le cœur sage sera reconnu comme intelligent et les paroles qu'il va dire vont être des paroles aimables. Et des paroles aimables, c'est des paroles, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est des paroles qui nous convainquent. Il y a un langage, je veux pas faire trop gaga là, ou trop cliché, mais les paroles il y a un langage de l'amour quand même qu'il est persuasif. Il y a des paroles d'amour et des paroles qui sont prononcées. Et quand ce sont des paroles qui viennent, qui sont motivées par l'amour, ce sont des paroles persuasives. Oui, je sais que tu m'aimes. Hein? Ça, on le sait. Il y a des paroles comme ça qui sont persuasives. Donc, celui qui aime la pureté du cœur, la limpidité du cœur, la pureté. Il y a pas la pureté. Vous savez, c'est quoi? C'est comme une espèce de. Vous prenez un verre, vous mettez de l'argile en poudre, vous brassez, ok? Ça fait un beau mélange. À un moment donné, ça s'en va dans le fond. Là, l'eau devient claire, l'eau devient pure. C'est ça la pureté. La pureté. Et on continue. Et je sais que je ferai pas le tour de l'auberge tout de suite, mais Proverbe 13:3 nous dit celui qui veille sur sa bouche, donc celui qui veille sur sa bouche. Se garde lui-même, mais celui qui ouvre grande ses lèvres court à sa perte. J'aimerais terminer avec juste un autre point, le point de destination. Donc, on a dit que le point de départ, c'est le cœur. OK? Ça va? On est sur quel chemin que nos paroles doivent suivre. Le point de départ, c'est notre cœur. C'est-à-dire que ça doit partir d'ici, en relation avec Dieu, pour recevoir des paroles vraies sur nous et pour pouvoir dire des paroles vraies sur les autres. Et sur le chemin sur lequel on marche, c'est sur le chemin de la vérité, de plus en plus. On fait des erreurs, on s'écarte un peu, à gauche et à droite. Parfois même, on va carrément en dehors du chemin, mais on peut se reprendre parce qu'on connaît le chemin. Le chemin, c'est... Exact. Jésus a dit juste, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est clair qu'on peut toujours revenir sur ce chemin-là. Mais il y a un point de destination... Et il y avait le point de contrôle qui était la bouche. C'est pour ça que je viens juste de le passer. C'est-à-dire que c'est comme un checkpoint, OK? Quand on marche sur la route, il y a une chose qu'on peut faire, de ne pas dire toujours ce qu'on pense. Il y a des circonstances, même les proverbes disent, hein, même l'idiot, quand il ne parle pas, il a l'air sage. OK? C'est ma version. Et donc, des fois, si vous voulez avoir l'air sage, bien, on a juste à pas parler. Déjà, on a de l'air plus sage que si on parlait puis on disait des bêtises, OK? Mettre une garde à sa bouche. Ça, c'est le point de contrôle, OK? Quand on marche, à un moment donné, faut mettre un point. Mais le point de destination, c'est où est-ce que ce chemin-là doit mener? Il doit mener pour nous-mêmes, hein? Dire des paroles vraies pour nous-mêmes, à nous-mêmes. Des paroles vraies aux autres et des paroles vraies aussi à Dieu. Mais là, on va juste voir soi-même. Quand on prêche pas souvent, on prêche longtemps. Excusez-moi, je parle rien. Je vois ma montre, le temps qui file. OK, dernier point. Les paroles qu'on se dit à soi-même, j'ai un peu ouvert la parenthèse tout à l'heure. Et nous lisons dans 1 Roi, chapitre 19, verset 4, il dit, « Quant à lui, il s'agit d'Élie. » Élie, je raconte rapidement l'histoire, Élie, c'est un grand prophète qui a remporté une grande victoire. Il a eu des grands miracles qui ont été faits par lui. Donc, c'est un homme de puissance, un homme de foi. Mais après avoir réalisé une grande victoire, il tombe dans la déprime complètement, dans la dépression. Il ne veut plus rien savoir de Dieu, il veut s'isoler, il veut s'écarter. Il dit ceci, « Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. » C'est symbolique, hein? Il va avoir la paix. Il va être tout seul. Quand ça ne va pas bien, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut s'en aller tout seul. N'importe où, dans le bois, dans notre chambre, n'importe où. N'importe où, mais on veut être tout seul quand ça va pas bien, surtout quand on est blessé. Puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Pourtant, il avait réalisé de grandes victoires. Pourquoi qu'il dit ça? Parce qu'il y a un langage intérieur dans sa tête qui dit, « Ça vaut pas la peine. Tu as tout fait ça. Dieu est avec toi, mais ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. » Laisse tomber, oh, much, too much. Il y en a trop, là. Parce qu'il pensait à la Jézabel, une madame qui n'était pas très gentille, qui vivait à son époque. Et la Jézabel, vous lirez, Jézabel n'était pas très gentille, et elle tuait les prophètes. Donc, c'est un, disons que c'était un rabais comme un autre, mais c'était assez violent. Alors, on a un discours intérieur. On a un discours intérieur. Il y a des études qui ont été faites puis qui disent qu'on a, je pense qu'on prononce à peu près 576 000 fois des mots dans notre tête, dans la journée. On prononce des mots, on a un discours intérieur quand on se lève le matin, déjà quand on prépare notre agenda de la journée. Déjà, vous avez un discours intérieur dans votre tête. OK? J'espère. Oui? Oh oui. On a un discours intérieur. Moi, j'en ai un, mais j'essaie de le verbaliser. On a tous des discours intérieurs. Tout le temps, on est toujours en train de se parler. C'est assez fatigant. On parle même à soi-même quand on écoute quelqu'un d'autre. C'est encore plus fatigant. Parce qu'on n'écoute plus vraiment. C'est-à-dire qu'on prépare notre, soit notre argument ou oui, de soi, moi, il dit ça. Oui, de soi, oui, de soi. On parle quand on fait notre épicerie, on est en train de comparer les prix des céréales. 5,24, 5,26, 100 grammes, une pièce et 25 de 100 grammes. On se parle tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans notre tête, tout le temps. Et qu'est-ce qu'on se dit dans notre tête? Qu'est-ce qu'on se dit dans notre tête? Et ça, moi, je vous dirais qu'il faut de plus en plus que les paroles qu'on se dit dans notre tête soient vraies, soient la vérité. Soit les choses qui sont vraies. Et quand on a chanté, hein, « Je suis enfant de Dieu, j'ai ma place dans ta maison. » Et dire toutes les paroles de vérité, ce n'est pas de la pensée positive. Oui, c'est de la pensée positive dans un sens, mais c'est de la pensée qui est basée sur la vérité. Et nous en avons besoin. C'est un besoin essentiel de se reconnecter avec ce qui est vrai, avec ce qui est juste, parce que là est le secret de la vie. C'est la vie. La vérité, c'est la vie. C'est Dieu, toujours en ayant cette relation personnelle avec Dieu. Et donc, dire les choses qui sont vraies sur soi. Et apparemment, on a découvert que, bien sûr, c'est une présentation du monde que l'on se fait. C'est notre vision du monde qui jase en dedans, là. Hein, c'est notre vision du monde. On jase sur notre vision du monde. Ouais, moi, le monde est fait comme ça, puis il y a toutes sortes de visions du monde, hein, ça c'est clair. Puis on jase aussi sur notre vision de soi. Donc, c'est une représentation que l'on s'en fait. Mais cette représentation-là, elle n'est peut-être pas nécessairement juste. Et la plupart du temps, c'est pas juste. En tout cas, pas complètement juste. Et on a donc besoin de se dire ce qui est vrai, les paroles vraies. C'est très sérieux. C'est très sérieux et c'est très libérateur. Parce qu'à ce moment-là, si je suis de plus en plus vrai dans mon discours intérieur, je vais l'être aussi avec les autres, bien sûr. Et il n'y a rien à cacher devant Dieu. Je vais l'être de plus en plus aussi devant Dieu. Et c'est ça que Dieu veut. Apparemment qu'une chose aussi de le discours intérieur, donc, c'est de dire, de parler au-dessus, hein? Ou en il. J'ai trouvé ça drôle quand je disais ça. Au lieu de dire je suis enfant de Dieu ou je suis capable. Apparemment, c'est mieux de dire tu es capable. André, tu es capable. Au lieu de dire je suis capable. Ou il est capable. André, il est capable. Non, mais apparemment que c'est vrai. Et j'ai essayé ça, pas longtemps, mais j'ai essayé un petit peu. Là, la tête commençait à m'enfler. Je dis, vous m'arrêtez. Mais mais c'est vrai pareil, ça marche. Là, on est un petit peu plus loin des proverbes. Mais ça marche au sens que on prend une distance. On prend une distance par rapport à soi. André, tu es sauvé. André, tu es un enfant de Dieu. André, tu. Et ça fait comme une distance et on est en train de se parler. On peut engager à ce moment-là. Là, faites attention pour pas aller trop loin, là. Faites toujours ça devant Dieu, OK? Pas dans l'épicerie à voix haute, OK? Ça pourrait être dérangeant. Mais faire ça comme ça, ça nous aide beaucoup. Et n'est-ce pas que le psalmiste le fait aussi? Le psaume 42, verset 12 dit, pourquoi être abattu, mon âme? Ah, il est en train de parler à son âme. Pourquoi être abattu, mon âme? Et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Vous ferez une petite étude sur les pronoms personnels ici, c'est vraiment intéressant. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Son proverbe, c'est le proverbe 18, verset 7. La bouche de l'homme stupide provoque sa ruine et ses lèvres sont un piège pour lui-même. Saviez-vous que lorsqu'on se parle à soi-même aussi, on se rend compte que ça nous rebondit. Si on dit des paroles négatives sur soi, ça nous revient aussi, ça rebondit. On va s'arrêter ici. Mais je vous invite vraiment ce matin, c'est un côté très pratique de la chose, de prononcer des paroles qui soient vraies, qui soient authentiques. D'abord, ça fait du bien aux autres de dire la vérité avec amour. On est dans la vérité et Dieu appuie ça à 100%. Et en même temps aussi, ça fait démarrer en nous une recherche. Et j'espère que ce matin, j'ai juste déclenché une petite chose, un point de départ, de dire, moi, je veux marcher sur ce chemin. Je veux que mes paroles suivent le chemin de la vérité. Je veux que mes paroles suivent ce chemin-là. Et pour ce faire, je sais que ça doit commencer par mon cœur. Et je sais aussi que ça doit toujours être avec une relation personnelle avec Dieu. Je ne peux pas, de moi-même, tout savoir ce qui est vrai. Parce que si je sais que je suis un enfant de Dieu, je sais que, en fait, Dieu existe, Dieu est présent, Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Et donc, c'est dans cette relation personnelle-là que je vais connaître ce qui est vrai d'être un enfant de Dieu. Je ne peux pas connaître ce qui est vrai d'être un enfant de Dieu si je n'entre pas en relation personnelle avec mon Père. Et c'est en rentrant de plus en plus en relation avec Dieu, mon Père, que je découvre ce qui je suis. Hein? Vous comprenez? La dynamique. Donc, je connais la vérité, pas simplement en l'entendant, en l'écoutant, mais en la pratiquant. Jésus dit, la vérité vous rendra libre, la vérité vous affranchira, n'est-ce pas? C'est ce qu'il dit dans Jean chapitre 8. Mais c'est quel genre de vérité? C'est la vérité pratiquée. C'est pas la vérité entendue seulement. C'est la vérité pratique qui libère. C'est pas la vérité juste entendue. Et cela, pour ça, pour pratiquer la vérité, on est d'accord qu'on a besoin d'aide. On a besoin de l'aide de Dieu. On a besoin de l'aide des uns des autres, de s'encourager les uns les autres à donner des paroles réconfortantes, encourageantes. Je ne sais pas où est-ce que tu es rendu ce matin sur le chemin. Tes paroles, je ne sais pas sur quel chemin ils sont en train de prendre, sur quel chemin ils sont. Mais moi, je peux t'encourager à ce que tes paroles, de plus en plus, suivent ce chemin de la vérité. D'abord pour toi-même. Et que tu recherches d'une façon passionnée la sagesse de Dieu. que tu recherches. Et ça, il faut que tu le fasses. C'est une décision que tu dois prendre. Tu dis, je veux être un passionné de la sagesse de Dieu. C'est-à-dire, je veux découvrir quelle est cette capacité, cette faculté que tu peux me donner, Seigneur, pour pouvoir discerner les meilleurs moyens pour pouvoir accomplir mes intentions, pour pouvoir accomplir les objectifs que tu mets dans mon cœur. N'est-ce pas? Amen. Est-ce qu'on va faire cette prière-là ce matin? Je vous invite à vous lever. On va juste demander, Seigneur, fais-moi marcher sur le chemin de la vérité. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons te remercier, Seigneur Dieu, pour ce que tu as accompli à la croix. Nous voulons te remercier que tu es le chemin, la vérité et la vie. De ce que tu es un Dieu personnel, que tu es un bon papa, que tu es un père. Tu es celui qui a toutes choses entre tes mains, que tu es le Dieu souverain. Tu es celui qui dirige toutes choses. Et que entre tes mains, Seigneur Dieu, nous n'avons rien à craindre. Parce que tu connais déjà, Seigneur Dieu, notre passé, tu connais notre présent et tu connais notre avenir. Seigneur, tu nous aimes plus que toute autre chose. Nous sommes précieux à tes yeux. Seigneur Dieu, tu es venu nous chercher, tu es mort pour nous. Tes mains, Seigneur, témoignent de ton amour. Ta croix, Seigneur Dieu, a réglé le problème du péché, du mal et de la mort. Et Seigneur, nous t'avons reçu. Nous t'avons, Seigneur Dieu, accepté. Seigneur, maintenant, dans ta grâce et dans ta bonté, nous te prions, ô Dieu, que tu nous aides à marcher sur le chemin des paroles qui sont vraies. Vraies envers toi, Seigneur Dieu, vraies envers nous-mêmes. Viens, Seigneur Dieu, faire cette transformation, afin que ce que nous dirons puisse te glorifier, afin que nos paroles, Seigneur Dieu, puissent être accompagnées de nos actions qui sont vraies. Seigneur Dieu, sois honoré ce matin. Je te prie pour mes frères et mes sœurs ce matin. Que le discours intérieur puisse être, qui est en dedans d'eux, soit renouvelé selon ton esprit. Soit transformé selon la vérité, ta vérité. Que tu puisses nous accompagner, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse dire de plus en plus les choses qui sont vraies sur nous, parce que toi, Seigneur Dieu, tu as commencé à implanter dans notre vie cette vie nouvelle. Seigneur, bénis cette Église, bénis mes frères et mes sœurs, bénis tous ceux et celles qui sont ici ce matin et qui ont entendu, Seigneur Dieu, une portion de ta parole. Nous t'en prions. Amen.